Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour le troisième épisode des trois quarts d'heure de Sticky. Lundi du jeûne, c'est Ferry dans le coton de veau et le mardi, c'est Paravioli, c'est Champions League. C'est pourquoi on a enregistré aujourd'hui en prévision de ce match apéritif à 18h45 contre les champions de Suisse des Young Boys et le Red Bull Leipzig. Lors de la première période de ce podcast, on parlera aussi Coupe de Suisse et d'un tour qui a enfin offert quelques surprises, ce qui est assez rare pour être souligné dans notre pays. Sans Balotelli, décidément, le FC Sion ressemble à une vraie équipe. Enfin, pour terminer, lors du dernier quart d'heure, on parlera des autres clubs suisses qui joueront une phase de poule cet automne et on évoquera donc pas mal l'entrée en lice de Servette contre le Slavia Prague ce jeudi. On parlera aussi un peu, forcément, de l'excellent Lugano Bodø/Glimt en conférence ligue ce même jeudi. C'est parti pour les trois quarts d'heure de cette équipe. Dix semaines européennes, dit forcément internationaux côté rédaction Sport Center. Pour ce faire, j'ai avec moi Daniel Visentini. Salut Daniel.
Salut tout le monde.
J'ai aussi Valentin Schnork. Salut Valentin.
Salut Robin, salut à tous.
Et puis forcément, Blue Sport, ça rime avec Coupe d'Europe. Hein. Salut à toi, Alain Rohrbach de Blue, justement.
Salut l'équipe.
Bon, on ira sur la Coupe d'Europe un peu plus tard dans cette émission. On va commencer par la Coupe de Suisse. La semaine passée, je pensais à ce podcast et je me disais, mais quand même, la Coupe de Suisse, ça doit être la Coupe où il y a le moins de surprises au monde, à peu près. Et puis paf, ce week-end, trois clubs de Super League qui ont sauté. Valentin, Yverdon a sauté, Saint-Gall a sauté, Delémont est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end?
Bon, il y a surprise et surprise. Est-ce que Sion qui sort Getsé, c'est une surprise quand tu parles de les deux effectifs, la qualité de ces deux équipes depuis le début de saison? Moi, ça m'a. Donc, s'il fallait voir une surprise évidente, elle devait venir d'ici, donc venir de Tourbillon. Donc, moi, ça ne m'étonne pas plus que ça. Maintenant, pour Delémont, contre Saint-Gall, pour Rapperswil contre Yverdon. Il y a quand même un contexte pour ces équipes de Super League. Alors, c'est clair que normalement, ça doit passer 1000 fois contre des équipes de Promotion League. Mais il faut quand même conscient que ce tour de Super de Coupe de Suisse, il arrive juste après une pause internationale. Ça fait 2 semaines que ces équipes de Super League n'ont pas joué, peut-être qu'ils ont récupéré les internationaux, ce genre de choses. Et quand t'es coach, t'es obligé de mettre ta meilleure équipe, sachant que derrière, t'as une semaine complète avec rien avant le championnat. Et tu crois qu'ils sont tous contents d'aller à la boulangerie, d'aller à Rapperswil, etc. C'est peut-être compliqué un petit peu à animer ces équipes-là, ça excuse rien, mais ça permet de comprendre pourquoi c'est pas des matchs qui sont extrêmement motivants, extrêmement stimulants pour des équipes professionnelles. Et puis quand t'as une équipe qui sait à peu près ce qu'il veut faire en face et puis qui joue sa carte à fond, ça peut passer à peu près tout le temps, quoi. Ça, c'est des différences extrêmement notables entre des joueurs qui jouent en Promotion League, dont certains ont joué beaucoup plus haut, et une équipe de Super League. Des fois, il y en a pas. Quoi.
Alain, tu n'as pas été surpris non plus?
Alors, concernant Sion, pas, parce que nous, depuis le début de la saison, on dit que Getsé, c'est peut-être le principal adversaire que les clubs vaudois de Super League doivent viser, clairement. On voit qu'il y a des tensions dans ce vestiaire, il y a des allées et venues, c'est la politique du club, malgré tout le talent de Bruno Berner, c'est compliqué. Donc, pour moi, ça, c'est pas une surprise. La grosse surprise, c'est quand même l'élimination de Saint-Gall, parce que depuis l'arrivée de Mathias Suppi, Saint-Gall fait de la Coupe de Suisse son objectif. Ils essayent de faire un peu sans succès ce que Sion visait, c'est-à-dire que Saint-Gall est un club périphérique qui n'y arrivera jamais via le championnat. Et Upi veut soulever un trophée. Tous les supporters des Brodeurs attendent ça. Et quand on écoute l'interview de Peter Zeidler après le match, on voit que c'est vraiment, vraiment une peau de banane qu'il n'avait pas planifié parce qu'il a quasiment mis son équipe type. Je me retrouve dans quelques explications de Valentin. Il y a la pause, donc ils perdent le rythme. L'entraînement ne remplace pas les matchs. Et puis tu as ce déplacement qui arrive contre une équipe de Ligue inférieure qui est super motivée. Et pour moi, ça, c'est la grosse surprise. Yverdon, ouais, voilà, tu pouvais t'y attendre comme ça pouvait passer. Mais Saint-Gall, clairement, pour moi, c'est la big surprise du week-end.
Daniel, est-ce qu'on touche pas là les limites de l'exercice de toutes ces équipes avec des joueurs venus de partout dans le monde qui reviennent aussi quelques jours, parce qu'il y a des internationaux, hein, à Getsé, à Yverdon, à Saint-Gall, ils reviennent tard et t'as beau mettre ta meilleure équipe, t'es pas forcément un concerné et deux prêt pour ces matchs.
Bah, c'est un peu ça, c'est la question du rythme et de la motivation. Le rythme, c'est ce qui fait la différence pour une équipe de Super League face à une équipe de Challenge League ou de Promotion League a fortiori. Et on voit quoi? On voit qu'une équipe qui n'arrive pas à imprimer ce qu'elle fait d'habitude en championnat à son meilleur niveau, eh ben, a des problèmes. Elle peut avoir des problèmes en tout cas. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et la coupe est là pour le rappeler. Ça rappelle aussi la marge mince qui existe en Suisse entre la qualité des contingents de Super League et des équipes de Promotion League qui peuvent, dans un bon jour, comme ça a été le cas pour Rapperswil, comme ça a été le cas pour Delémont, créer ben justement la surprise. Ça veut dire que la marge de manœuvre pour faire la différence, elle n'est pas si énorme que ça pour les clubs qui sont au-dessus. Et puis Saint-Gall l'a amèrement constaté à la Blancherie.
Valentin, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans d'autres, enfin de vrais grands pays de football. Il y a beaucoup d'équipes, même des fois de 5 ou 6e division, qui récupèrent des anciens pros, des anciens de centres de formation, et la qualité technique est là. Est-ce qu'en Suisse, on commence à se rapprocher de ça? On voit qu'à Brühl, par exemple, ou à Delémont, il y a du bon matériel techniquement. Ça n'a pas grand-chose à voir avec. Enfin, ça se rapproche techniquement de ce qu'on peut voir en dessus. Et même maintenant, il y a une culture tactique qui est en train de ruisseler, j'ai envie de dire, sur les échelons inférieurs.
Ouais, mais faut pas être dupe, hein. Faut être conscient comment est-ce qu'on travaille au niveau de la formation en Suisse. On essaie d'avoir la base la plus large possible au départ, à 11, 10, 11 ans, et de faire monter autant de joueurs que possible. Et puis petit à petit, la pyramide, elle se resserre, l'entonnoir se fait. Mais tous ces joueurs-là, que vous ayez en Promotion League, en Première Ligue, en Deuxième Ligue Inter, c'est quasiment que des joueurs qui ont de la formation élite, qui sont passés par des académies. Alors peut-être qu'ils sont arrêtés en moins de 15, en moins de 16, certains moins de 18, certains moins de 21, certains ont peut-être touché de la première équipe, mais ils sont tous formés. Et quand tu vas voir au niveau amateur, la différence entre un joueur qui est passé par les catégories interrégionales des clubs entre guillemets normaux et ceux qui sont passés par les centres de formation, par les clubs professionnels, il y a quand même une différence qui est assez notoire. Déjà, c'est en termes de masse d'entraînement, c'est toujours des joueurs qui sont entraînés deux ou trois fois plus que des joueurs qui ont fait une formation junior B, junior C, junior A Inter, etc. Donc, en fait, c'est pas très étonnant. Les académies aujourd'hui forment pour le football professionnel, mais pas que pour le football professionnel, ce qui permet d'avoir des joueurs globalement qui sont à peu près tous formés de la même manière, qui ont la même éducation au football. Et ensuite, tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi. Après, c'est une question de motivation, une question d'application, tout ce que tu veux. Mais en termes de talent et de formation, normalement, il y a à peu près tout le monde qui est sur un pied d'égalité, quoi.
Alors, je ne sais pas si ça t'a fait comme à moi, mais quand tu vois certains contingents de ces équipes qui ont créé la surprise, tu retrouves des noms que tu avais vus 16e, 17e d'une équipe de Super League il y a quelques temps. Est-ce que cette Coupe de Suisse peut devenir un repêchage? C'est des joueurs que tu as peut-être enlevé de ton esprit pour les recruteurs, et là, tu te dis, ah bah, il était bon contre une Super League, on va lui redonner une chance.
Bon, ce qui est certain, c'est que tous les matchs qui peuvent te faire briller amènent un surplus de motivation. On ne le voit pas uniquement en Coupe de Suisse, on le verra aussi pas plus tard que cette semaine en Coupe d'Europe. Les joueurs qui ont une envie de grandeur veulent briller dans ces matchs-là. Et par rapport à ce que disait Valentin, c'est vrai que moi, j'ai vécu de près puisque j'ai collaboré avec le Team Jura il y a de cela quelques années en arrière et le bassin de formation visait tous ces clubs de Promotion League qui existaient, qui étaient à son balbutiement, la première ligue, et tout le monde rêvait d'aller à Bâle. Forcément, la proximité du Jura faisait que tu en as un qui y allait et tous les autres finissaient justement dans ces clubs régionaux. Ce qui fait que, à notre époque, quand nous on jouait à quatre derrière avec un stopper qui courait match après les attaquants, et maintenant, comme le dit Valentin, tu as toutes les catégories de juniors qui savent jouer en zone, qui savent évoluer dans différents schémas tactiques. Donc, moi, ça m'étonne pas que certains anciens veulent aller jouer parce qu'au niveau tactique, au niveau approche du football, c'est quand même plus agréable. À l'image de Guillaume Moirod, hein, qui va s'engager avec Muri Gumlingen. Voilà, qu'est-ce qu'il a approuvé d'aller là? Ben, Carlos Varela aussi a voulu jouer encore assez longtemps. Et je pense que la Promotion League est un repère pour ces joueurs qui ont encore envie de se faire plaisir au foot. Et aussi, il faut quand même pas l'oublier, il y a encore un petit peu d'argent à se faire en promotion league en Suisse.
C'est la question que je voulais te poser, Daniel. Il y a certains bons joueurs de Promotion League, ils gagnent très bien leur vie. Et par rapport à un petit club, j'ai envie de dire, de Challenge League, il y a photo, quoi.
Ben oui, il y a plus de moyens. Donc, les clubs de Promotion League qui sont capables d'offrir des dédommagements, comme on dit maintenant, pour que les joueurs... viennent, mais c'est pas des dédommagements, c'est souvent plus que ça. Et ces joueurs-là, maintenant, ben, ont un intérêt aussi pour terminer une carrière ou pour jouer à un certain niveau, avoir ce genre de match de coupe pour briller, pour rappeler que, ben, que la qualité est là. Moi, le seul truc qui me dérange un tout petit peu, c'est que dans un championnat comme le championnat de Suisse, si la qualité était plus grande dans les équipes d'élite, cette question-là ne devrait pas se poser. En dépit de toute la qualité qui grandit, et c'est tant mieux, en deuxième ligue inter, en première ligue, en promotion league et en challenge league, une super ligue devrait faire la différence sur sa qualité intrinsèque. Et ça raconte aussi quelque part un nivellement par le haut pour les équipes qui sont plus petites, mais un nivellement par le bas pour celles qui sont dans l'élite.
Alain dit coupe, dit forcément FC Sion. J'ai une question toute bête avec le FC Sion actuel. Combien il en mettrait au FC Sion de l'année passée?
Bah, tu sais, en football, quand tu as la sérénité et la confiance, le niveau, il se nivelle. Mais écoute, j'ai envie de te dire que je suis bien emprunté à te répondre à cette question parce que j'ai pas envie de dire que le FC Sion actuel est plus fort que celui de l'année passée, parce que pour moi, une équipe, je la juge quand elle est dans la difficulté, c'est-à-dire quand elle aura perdu un deux matchs, pour voir le ressort qu'elle aura aussi. Intrinsèquement, l'équipe de l'année passée n'était pas inférieure à celle qu'on voit évoluer cette année. Il ne faut pas se mentir non plus. Moi, j'ai suivi quand même de près quelques matchs de Sion. Tu peux te permettre de rater un contrôle qui part à 2 mètres. En Challenge League, ça ne se paye pas. En Super League, ça se paye. Donc, il faut donner le mérite à Sion d'avoir réussi un début de championnat qui lui permet de travailler dans le calme et la sérénité. Mais on connaît la maison et le match nul contre Baden, heureusement qu'il y a eu la pause derrière et qu'ils ont enchaîné avec ce résultat très probant contre Guetze. C'est une équipe qui travaille, qui devrait progresser. Donc, je te dirais qu'elle aurait gagné contre l'équipe de l'année passée, mais je ne pense pas que l'écart il est si énorme.
Mais l'équipe de l'année passée, avec ou sans Balotelli?
Ouais, ben voilà. Déjà, ça, c'est un débat. Ouais. Ça, c'est déjà un débat, parce que c'est vrai que si tu fais un retour en arrière avant Balotelli, c'est aussi une équipe qui était cohérente et qui jouait plus ou moins bien, c'est sûr. Mais si tu fais référence par contre à la OF Session de fin d'année, ben voilà, tu sais que le foot, ça se joue aussi énormément des deux oreilles. Ouais, à 11 déjà, mais aussi énormément tes deux oreilles. Et je pense que la grande différence, elle est là aussi.
Valentin, à Sion, il y a eu un début de saison, des bons résultats. Et il y a peut-être ce départ de Balotelli qui on va arrêter de parler de ça maintenant.
Ça va faire du bien. Je pense que tout le monde... On peut que gagner en sérénité tant qu'il est plus haut dans l'environnement du club. C'était usant. Moi, j'ai vécu une année usante à parler de Sion, parce que ça devait toujours revenir sur la table. Parler de Balotelli, il fallait toujours parler de Balotelli, demander où il était, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il jouait pas, pourquoi il était sorti la veille, pourquoi est-ce qu'il était pas bon. C'était une présence permanente et qui était insupportable, qui faisait que si tu parlais d'autre chose, ça rentrait pas en ligne de compte tant qu'on n'avait pas parlé de l'élément Balotelli là-dedans. Et moi, je l'ai très souvent dit l'année passée, mais ça a été très frustrant de voir Balotelli arriver quand on voyait le début de saison qui avait été réalisé. C'était pas parfait, mais c'était prometteur au moins. Et donc, je l'ai relu l'autre jour, quand il est parti, j'ai relu l'interview du président Christian Constantin quand Balotelli avait signé. C'est le plus gros transfert de l'histoire du FC Sion, avait-il dit. Et ça fait tous mourir derrière. Et puis, c'est pas comme si on l'avait pas senti venir, quoi, quand même, quoi. On peut nous dire que oui, Balotelli aurait pu s'il avait été, mais enfin, personne. Il fallait quand même croire en quelque chose d'un petit peu surnaturel pour imaginer que Balotelli puisse porter Sion sur toute une saison.
Surtout dans le contexte particulier qui entoure le FC Sion, cet esprit où tout le monde s'embrasse ou assez vite, si tu n'as pas un cadre, malheureusement, certains joueurs peuvent un peu aussi profiter de cet amour presque exacerbé du président et puis qui est aussi véhiculé par son fils. Et puis, assez vite, on s'est rendu compte que le risque management pris en faisant ce transfert n'allait pas être payant.
Ce n'est pas comme s'ils n'étaient pas avertis, hein, parce que des anciennes stars sur le retour qui signent à Sion avec un effet zéro sur les résultats, on peut en citer, hein, ça remplit plusieurs doigts de plusieurs mains quand même, non ?
Promis, c'est la dernière fois qu'on parle de Balotelli dans ce podcast, mais ça prouve quand même que on ne peut pas insulter le football, hein, il se ronge tout le temps.
Ouais, je pense qu'on est juste pour terminer, on est aussi un petit peu coupable, nous, en tant que médias, d'avoir toujours agité ça, parce que c'était Balotelli, donc on est toujours revenu sur Balotelli tout le temps, alors qu'on aurait pu au bout d'un moment se dire ok, on le verra quand il reviendra, et puis tant pis, qu'est-ce qu'il fait à côté. Ça noircissait le tableau constamment, en fait.
Ouais, mais ça a noirci le tableau dans le cerveau des joueurs et du club en entier. Hein. Ouais. Et si le club se pète la gueule, c'est aussi à cause de ça. Donc, on ne peut pas l'occulter non plus. Quoi.
Non.
Voilà, c'était le mot de la fin sur Balotelli, je vous promets. Bon, deuxième période, on part sur des choses un peu plus réjouissantes. La Ligue des Champions avec un club suisse cette année, qui dit Coupe d'Europe, dit Alain Rohrbach forcément, et Blue Sport. Alain, déjà explique aux auditeurs comment ça marche à Blue Sport pour la Coupe d'Europe, comment on décide quel match on va couvrir sur place, comment on décide, comment suivre aussi Servette forcément, parce que un roman en Coupe d'Europe, c'est pas souvent non plus.
Déjà, c'est pas très sympathique de te moquer de mes oreilles qui ressemblent au trophée de la Ligue des Champions.
Hein. J'ai envie de te soulever.
Heureusement que c'est un podcast et qu'il n'y a pas les images. Grand malhonnête que tu es. Non, on est particulièrement heureux. Alors, on se gargarise pas du fait qu'on est nouveau les partenaires de la Ligue des Champions, mais ce que j'allais dire, c'est qu'on est particulièrement heureux d'enfin aussi pouvoir suivre un club roman dans une phase de groupe. Et je commence par ça parce que c'est vraiment la grande nouveauté. Je me réjouis d'aller à titre personnel à Tiraspol, au fin fond de la Moldavie. Non, on va suivre Servette, c'est clair, de très très près. On espère vivre de grandes émotions avec les Grenats. On espère qu'ils auront la capacité d'assumer les deux tableaux. Déjà retrouver un peu de sérénité en championnat pour être un peu plus enthousiasme en Coupe d'Europe, mais à l'image de ce qu'on parlait avant de la Coupe de Suisse, je pense qu'il y a des joueurs qui vont vouloir se mettre en évidence. Donc nous, on va suivre particulièrement IB et Servette. On ne va pas occulter Lugano, mais l'intérêt est un petit peu moindre. On va entourer tous les matchs, on va faire des longues soirées. Aujourd'hui, on prend l'antenne à 6h jusqu'à 23h45. On va suivre IB, bien sûr, avec nos équipes sur place. Ensuite, on enchaînera avec PSG Dortmund, on verra tous les buts. Et rebelote demain et jeudi, la même chose. On va suivre Servette, on va enchaîner avec Lugano. Donc, on a des grosses semaines en perspective, mais on s'en réjouit parce que d'avoir le football suisse qui joue à la table des grands, que ce soit en Ligue des Champions, mais pour nous aussi, je trouve que l'Europa League, c'est plus que positif que d'avoir un représentant en Europa League. Il n'y a qu'à voir le tableau des équipes qualifiées pour cette phase finale. Et puis, on va se réjouir parce que c'est la dernière édition sous ce format-là. Et à titre personnel, j'attendais de convaincu de la nouvelle mouture que l'UEFA nous a proposée dès la saison prochaine.
Daniel, je te propose de partir sur les Young Boys. J'ai pas tout bien compris où est passé l'argent, disons, parce que Young Boys, on sait, va toucher l'argent de la Ligue des Champions, 15 millions et plus. Ils ont transféré pour presque 23 millions de francs en vente et il y a eu très peu d'achats. Est-ce que ce Tibé, qui n'est pas forcément très souverain tactiquement, j'ai envie, ils sont plus forts en Suisse, hein, pas de souci, mais ils ne sont pas extraordinaires non plus. Qu'est-ce qui se passe à IB? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de renfort un peu clinquant pour aller tenter d'aller faire fort en Europe, quoi?
Je ne sais pas, ils sont tellement peu clinquants en Suisse d'ailleurs qu'ils ont failli se faire éliminer en Coupe de Suisse par Neuchâtel Xamax. Hein. Ils ont seulement gagné 1-0 avec un but sur la fin, et c'est que sa max avait été plus efficace, ils auraient passé l'épaule. Alors là, on peut se poser toutes les questions. Peut-être que IB avait déjà, évidemment, la tête au match de Ligue des Champions de ce soir. Je me méfierais avec IB. IB est une équipe qui planifie tout à l'avance, qui regarde comment s'organiser et dans ses transferts est toujours très intelligent. Alors oui, il n'y a rien de clinquant pour l'instant, peut-être dans les engagements. Il y a Rieder qui est parti et ça va faire un grand vide. Mais IB sait toujours rebondir par rapport à ça. Je ne sais pas si ça va suffire en Ligue des Champions. Hein. Les adversaires, c'est du gros calibre quand même. Hein. Leipzig, Manchester City, Étoile Rouge Belgrade. Fatalement, IB devra faire un exploit s'il veut terminer troisième. Je ne pense même pas à une deuxième place. Donc oui, c'est compliqué. Ça paraît pas très glamour actuellement en termes de recrutement, mais il y a des choses qui se posent quand même, qui se mettent en place à IB toujours à la fin. Et j'attends de voir.
Valentin, on sait que tu as pas mal écrit sur ce que veut mettre en place Raphaël Vicky. Tu penses que avec les recrues, Malès pour Rieder par exemple, Lyonco à droite, la prolongation de Garcia, est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens ou il manque pas une petite folie quoi?
Moi, ça fait plus d'un an maintenant qu'on voit le IB Raphaël Vicky. Je sais toujours pas quel est son style exactement. Enfin, pour moi, alors peut-être qu'à IB aussi, on aime avoir une continuité, on aime s'inscrire dans une lignée. On a vu que quand Wagner est arrivé, qu'il a commencé à changer certains trucs, au bout d'un moment, ça a pété, ça a explosé, ça marchait plus. On est revenu au style Seoane, etc. Moi, je suis un peu perplexe par rapport à ce que met en place Vicky. Alors peut-être qu'il n'a pas besoin de faire beaucoup plus, mais en même temps, l'année passée en Coupe d'Europe, ça lui a coûté cher. En championnat, ça suffit à peu près, mais c'est quand même pas extraordinaire. Je pense qu'il y a quand même des postes où il y a des manques actuellement. Derrière, je suis pas sûr que IB puisse être très très serein avec ce qu'il a. Il y a Amenda qui est à peu près prometteur, Camara qui est quand même un bon joueur. Mais ensuite, si tu dois mettre Lutzenberger ou Benito dans l'axe, c'est quand même un peu emprunté. À droite, alors Blum joue un peu moins sur ses buts de saison. On a beaucoup vu Yanko. Moi, je suis toujours pas convaincu par Cédi Yanko. Ce que je trouve intéressant, c'est que le milieu est bien fourni, l'attaque est bien fournie. Le Lacomi, qui a priori, c'est quand même lui le remplaçant de Rieder plus que Malès, qui devrait plutôt jouer sur un des deux côtés. Ça a quand même l'air assez intéressant. C'est un style qui peut un petit peu ressembler à Rieder avec peut-être un petit peu moins de volume et d'intensité. Mais il y a des bons joueurs, oui. Mais enfin, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est comme ça c'est des joueurs qui correspondent totalement au profil de jeu que envisage le directoire d'IB? Moi, j'ai quand même encore des doutes. Est-ce que Vicky a totalement les mains libres sur ce qu'il peut vouloir faire? Je pense que oui, mais ça manque un petit peu de complexité des fois, je me dis.
Alain? Ouais, nous, c'est une énigme, et typiquement, on s'est penché sur la question pour l'émission de ce soir avec Carlos Varela et Guillaume Moirot, et on attendait le match de Xamax avec beaucoup d'impatience parce qu'on sait qu'à IB, il y a beaucoup de cerveaux qui sont pas focus au football. Avant la fin du mercato, il y avait des volontés de départ, il y a des agents qui ont fait des forcings jusqu'à la fin. Je veux dire, Rieder, il a à peu près été proposé à tous les clubs de Bundesliga. Donc même à Mönchengladbach, où Seoane, qui le connaît très bien, entraîne, on n'a pas voulu poser la somme qu'IB en voulait, il a atterri à Rennes. Maintenant, on se dit, bon, typiquement, Nsame, fin de mercato, voilà, il y a des contacts pour partir. Quel rôle il va jouer? Où je rejoins Valentin, c'est que nous, on est convaincus, on est unanime ici à Blue, que si il part en 4-4-2 Los Angeles en Ligue des Champions, il va prendre un bouillon, quoi, ça c'est sûr. Et qui pour remplacer Rieder? Lacomi peut-être. Est-ce qu'on replace Imery, mais où est-ce qu'on va jouer style ce qui a fonctionné un peu mieux par le passé, carrément un 5 derrière, je n'y crois pas, mais peut-être voilà, renforcer plus le milieu de terrain, parce que sinon, même qu'on va être à fond derrière IB, on a de la peine à y croire. Par contre, on attend de voir le vrai visage, ou en tout cas on espère voir un vrai visage d'IB, parce que depuis le début de la saison, on n'est absolument pas convaincu par ce qu'il nous présente. Et effectivement, ce 4-4 de losange avec un Rieder qui était un peu moins impliqué parce qu'il avait le cerveau ailleurs, on a vu ce que ça a donné. Alors ils font les points, mais ça convainc en tout cas personne.
Daniel, on entend beaucoup de négatifs sur ce IB, mais ça reste le multiple champion de Suisse, c'est trop fort pour la Super League pour le moment.
Oui, et puis IB, il ne faut pas oublier le traumatisme quand Zurich est devenu champion. IB était mal, ils ont fait tout le nécessaire ensuite pour corriger le tir, ils l'ont fait, ils sont redevenus champions. L'objectif d'IB, il ne faut pas l'oublier, c'est de se qualifier pour la Ligue des champions, c'est de gagner beaucoup d'argent, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, sur ce plan-là, ils ont parfaitement réussi dans leur plan de travail et dans leur objectif. Et le vrai IB va peut-être arriver maintenant. C'est seulement maintenant qu'on va voir comment IB peut travailler. Peut-être même, et je vais peut-être dire une ânerie, mais je m'en fous, c'est pas grave, j'en dis souvent. IB n'a peut-être pas de grandes ambitions en Ligue des Champions. Bien sûr que ça va mettre des joueurs en valeur, qu'on va les voir. Mais si IB termine quatrième dans ce groupe, ou troisième, je pense que ce sera la meilleure place qu'ils pourraient viser, ils auront totalement rempli le contrat, ils pourront se concentrer sur le championnat, être à nouveau champion, et grossir, avoir un cash flow, parce qu'ils ont beaucoup d'argent à disposition. Ils vont engranger ensuite, à chaque fois qu'ils vont marquer des points dans ce groupe, et s'ils en marquent quelques-uns, beaucoup d'argent, en plus des 15 millions déjà reçus. Donc, plus la billetterie, tout ça, ils gagnent beaucoup d'argent, et ils peuvent planifier ensuite une deuxième phase, peut-être pour le mercato hivernal, peut-être pour le futur. IB est toujours très fort dans la planification. Donc, j'attends encore de voir ce que ça va donner maintenant en automne, avec la libération d'avoir été qualifié en phase de poule de la Ligue des Champions, et pour asseoir et continuer d'asseoir leur domination sur le championnat de Suisse.
Ouais, mais je comprends ce que tu dis, rationnellement, c'est tout à fait juste, mais enfin, ça fait un moment que la domination d'IB elle existe sur le football suisse. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut quand même être en droit de demander à IB de raconter une histoire aussi en Coupe d'Europe? Il y a eu un temps, ces deux tours passés, quand ils avaient éliminé le Bayer Leverkusen avec ce année, il y a 3 ou 4 ans maintenant, je crois. Ils étaient sortis d'un groupe avec la Roma et en Europa League, et ils avaient éliminé le Bayer Leverkusen avant de tomber contre l'Ajax. Mais c'est jamais allé assez loin. Quand tu vois ce que, mine de rien, avec tout le marasme qui les entoure, ce que Bâle a fait l'année passée, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, qui s'est créé en tout cas, et qui a engagé à peu près toute la Suisse derrière lui. IB a aussi ce devoir-là de raconter une histoire et de peut-être de grossir aussi sa popularité. Bâle a beaucoup fait à ce niveau-là dans les années 2000-2010, quand ils ont été extrêmement bons en Coupe d'Europe, en obtenant des résultats. Ça a permis de grossir.
C'était une autre époque. C'était une autre époque. On pouvait pas. On peut plus acheter les joueurs que Bâle s'achetait à l'époque.
C'est pas ce que je dis. Moi, je dis simplement avoir essayé de tenter d'avoir une histoire en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League, en Conference League. Peu importe à la rigueur. Mais IB doit quand même avoir des ambitions européennes, je pense.
Bon, si tu traduis les propos des dirigeants, ils disent quand même qu'ils visent à être européens au printemps. Donc, sous-entendu, ça va être compliqué d'aller chatouiller à City et potentiellement Leipzig, mais on peut espérer devancer l'étoile rouge et être reversé en match de barrage Europa League au printemps. Mais je te rejoins, c'est vrai que c'est aussi un point sur lequel on est d'accord, c'est que voilà, se qualifier c'est bien beau, mais maintenant voilà, c'est la troisième fois qu'ils y vont, ils ont aussi fait un peu d'Europa League, depuis qu'ils ont retrouvé les sommets du football suisse, on attend à ce qu'ils fassent autre chose que simplement participer.
Est-ce que c'est possible? C'est la seule question que je pose.
Si Bâle a fait demi-finale de la Conference League l'année passée.
Mais Conference League, eux, ils sont en Champions League. Ouais. Et là, tu tombes contre du City, du Leipzig, de l'Étoile Rouge. C'est pas la même chose que les adversaires.
D'accord.
C'est pas Nice en face. Hein.
Oui, mais l'année passée, c'était Anderlecht en face, en Conference League.
Ouais, d'accord. Là, il y a eu un ratage. D'accord.
C'était la question que je voulais vous poser pour terminer ce quart d'heure. Est-ce que, on ne sent pas à équiper cette Stimmung que le FC Bâle a en Europe? Est-ce que ça vient de l'ADN? Est-ce que ça se construit, Alain? Est-ce que IB peut justement essayer de raconter quelque chose que Bâle fait presque naturellement, et Guetze il y a 20 ans, mais est-ce que cette IB est assez, je sais pas, funky pour arriver à enflammer la Suisse et à entraîner quelque chose derrière lui?
Bah, J'ai envie de te dire qu'à l'image du Bernois, le club est calme, le club est sage, et la ville s'enflamme pas comme à Bâle on peut le vivre. Si tu poses la question à Carlos Varela qui a joué dans les deux clubs, il va te l'expliquer. Tu peux pas aller boire un café à Bâle en tant que joueur du FC Bâle sans qu'on t'accoste, qu'on te parle de la Coupe d'Europe, du championnat et autres. À IB, c'est différent. Bernois est plus calme, c'est voilà, il fait le pont entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Et tu ressens ça en fait aussi au travers des dirigeants qui font jamais de grosses déclarations fracassantes. Il y a jamais personne qui claque la porte. Je pense que tout le monde souhaiterait avoir peut-être ce grain de folie. Qu'est-ce qui le provoque? Qu'est-ce qui le déclenche? Bah, c'est une épopée, tu sais comment ça démarre une épopée. C'est un match que tu renverses. On y a cru l'année passée quand ils ont renversé, pas l'année passée, quand ils ont renversé Manchester à domicile à la dernière minute. Tu te dis ça va lancer quelque chose. Et puis bah, parce que tu es en Ligue des Champions, c'est compliqué. Bâle était en Conference League. Bâle est passé combien de fois au penalty après prolongation. Donc une épopée, ça tient aussi à peu de choses. Tu te plantes en face de groupe parce que tu n'égalises pas la 92e et puis ton épopée, elle est morte, quoi. Donc moi, j'y crois pas trop sur la scène de la Ligue des Champions parce que là, on tape le top du top. Et regarde l'année passée, hein, tous les clubs du chapeau 4, que ce soit Haïfa, Copenhague, Pilsen, ils ont tous pris des roustes, quoi. Donc, on souhaite pas ça à IB. On souhaite qu'ils puissent quand même voilà, aller titiller l'étoile rouge. Et franchement, s'ils arrivent à être européens ce printemps, bah, ça pourrait, pourquoi pas, déclencher quelque chose après à un échelon qui correspond peut-être plus à la valeur intrinsèque du club aujourd'hui.
Daniel, Alain parle de petits détails, mais c'est pas justement cet ADN balois qui fait que les détails ont tendance à pencher dans son sens.
Je contextualise encore une fois, Bâle a fait son exploit et Dieu sait s'il faut lui rendre grâce aux Balois pour avoir atteint les demi-finales, d'accord, mais en troisième division de la Ligue européenne, donc en Conference League. C'est forcément plus simple que de réussir un exploit en première division, autrement dit en Champions League. Et ça, il faut l'avoir en tête aussi pour raconter l'histoire de Bâle de la saison dernière. Ils ont payé un lourd tribut en championnat à cause de ça d'ailleurs. IB, son calcul, c'est d'être en tête du championnat. C'est ce qu'ils arrivent à faire. Et ça, ça a une conséquence heureuse financièrement et redoutable sportivement, c'est de jouer contre des équipes beaucoup meilleures que celles qu'ont affrontées Bâle. Alors oui, Bâle a tout ce décorum autour de lui, tout ce passé avec un fantastique public, plus d'effervescence, tout ça, d'accord. Mais il ne faut pas oublier qu'IB est en Champions League et que c'est plus compliqué pour eux d'écrire une histoire européenne que pour Bâle la saison dernière.
Pour le troisième quart d'heure, on va quand même parler un petit peu d'IB encore un tout petit peu parce que, Valentin, tu ne me contrediras pas, mais la Suisse a besoin de bons résultats cette semaine déjà sur le front européen parce qu'il y a des points UEFA à les gratter parce qu'il y a du gros changement en fin d'année et ce serait pas mal d'être dans les 10 meilleurs pays européens parce que ça t'envoie directement le champion en Champions League la saison d'après. Est-ce que tu penses que IB, Servette, Lugano peuvent aller gratter cette place vu la concurrence qu'il y a tout autour sur le continent?
Ça va être quand même compliqué. Hein. Mais disons que c'est compliqué parce que IB est en Champions League, parce que Servette est en Europa League et parce que Lugano a chopé un groupe difficile en Conference League. Donc c'est ça qui rend les choses compliquées. Peut-être que si IB était en Conference League, en effet, ce n'est pas le cas, IB aurait pu gratter plus de points que ce que Lugano va faire ou bien ce que Servette va faire en Europa League. Le fait est que les trois clubs suisses en Coupe d'Europe ont quand même tiré des groupes qui ne sont pas évidents. Et le fait est aussi que Servette et Lugano ne sont pas très forcément habitués à jouer la Coupe d'Europe et ça va se voir. Ça, c'est quasiment une première. Pas pour Lugano, c'est pas une première, mais pour Servette, c'est une première. Pour IB, c'est retrouver la Ligue des Champions après une année sans Coupe d'Europe. C'est quand même des choses qui risquent de peser. Disons que s'il y a en tout cas une équipe qui est encore présente au printemps, à mon avis, ce sera déjà une bonne chose pour le football suisse, quoi.
Alain, on est actuellement 12e au
Voilà.
coefficient UEFA, derrière l'Autriche, l'Écosse, la Turquie, la Belgique et puis tous les grands championnats. Est-ce que tu penses que ce serait déjà une bonne chose? Parce qu'on envoyait, quand on avait la Super Ligue à Nice, on envoyait la moitié du championnat en Coupe d'Europe. Ça faisait un peu bizarre, mais est-ce que cette place fixe en Champions League est pas nécessaire pour le développement du foot suisse?
Pour la mise en vitrine, en tout cas, des joueurs, pour les clubs qui veulent faire du cash flow, comme le disait Daniel, oui, mais égoïstement, si on pense au coefficient UEFA, d'aller en Ligue des Champions, ça te rapporte des points parce que tu t'y qualifies, mais après, que tu gagnes un match comme le FC Bâle en Conference League ou que tu fasses un exploit comme IB le fera peut-être en Ligue des Champions, ça te rapporte le même nombre de points à UEFA. Donc, c'est un peu, tu vois, c'est un peu un dilemme. Nous, on fait des calculs de comptables et de journalistes, mais les clubs, il va demander à Servette quand la Vox Populi lui disait vaut mieux finir troisième parce que tu es sûr d'être européen. Ben non, la preuve, ils étaient dans une belle épopée de qualification Ligue des Champions, puis au final, ben, ils se retrouvent en Europa League et pas en Conference League avec un groupe quand même un peu plus sexy que celui de Lugano. Mais au niveau comptable, UEFA, devant, ça va être compliqué d'aller gratter les Autrichiens et les Écossais qui sont certes encore trois aussi en Coupe d'Europe, mais qui ont voilà, qui ont peut-être des clubs comme Salzbourg, Celtic ou Rangers un peu plus établis. Moi, je regarde plutôt derrière avec les Serbes, le Danemark, la Norvège et Israël qui
Et la Grèce même, ouais.
Talonne, ouais, effectivement. La Grèce qui est un tout petit peu plus loin. Voilà, il va falloir faire des points, mais c'est comme chaque année, c'est un peu le grand cercle. On attend de voir ce qui se passe et on verra les décisions. De toute façon, l'UEFA réoriente ses compétitions de toute façon pour donner à manger toujours aux plus gros. Et puis des pays comme la Norvège, la Suisse, la Grèce, Israël, la Tchéquie et les autres, ben on prendra ce qu'ils nous donnent, quoi. J'ai envie de te répondre ça parce que les clubs, eux, ils veulent jouer la plus belle compétition. Ils ne pensent pas forcément au coefficient UEFA en jouant les qualifs.
Daniel, Servette n'a pas ça dans l'esprit. Il a surtout cette découverte de la phase de poule de l'Europa League à gérer. Comment tu le sens? Comment tu vois ce premier match qui est peut-être l'occasion de bien lancer le truc, parce que Slavia Prague à la maison, avec du monde, avec du monde aussi dans le vestiaire Grenat, ça fait bizarre. Comment tu sens cette entrée en lice?
Alors, petit rappel, en 2001, saison 2001-2002, Servette réussit sa dernière grande campagne européenne en arrivant jusqu'en huitième de finale, en étant éliminé ensuite par le grand Valence de l'époque. Et cette campagne européenne avait commencé à l'automne 2001 contre une équipe, avec une qualification contre cette équipe. À l'époque, on se qualifiait directement, hein, c'était des matchs
La vraie
aller-retour.
Coupe d'Europe, ouais.
Quelle était cette équipe? Le Slavia Prague. Voilà.
Ça, on la sentait venir.
Ah, donc voilà, ça a commencé
Quel
comme ça en
suspense,
2001.
Daniel.
Quel suspense!
Le
Ça a
Pierre
commencé.
Bellemare du podcast.
Alors voilà, ça a commencé comme ça. Après, ils avaient éliminé Saragosse et ensuite Hertha Berlin. Et c'était la grande épopée européenne du Servette de Lucien Favre de l'époque, avec les Fournier, Wourouma, Obradovic et compagnie. Alexander Frey aussi. Et ce Servette-là avait très bien commencé contre Slavia Prague. Est-ce que c'est le même Slavia? Je vous cache pas que j'ai lancé un petit coup de fil à quelqu'un que je connais très bien, qui a joué à Servette et qui était aussi capitaine de l'équipe de République tchèque à l'époque, qui s'appelle Vava Nemetschek. Lui, il est du Sparta, hein, donc on va pas mélanger les deux, mais il connaît très très bien le Slavia et il m'a dit quelque chose d'assez synthétique en précisant, Daniel, tu sais, le Slavia d'aujourd'hui, c'est pas celui de 2001, c'est beaucoup plus fort, c'est très intense, c'est pressing très haut. Servette va avoir beaucoup de difficultés contre cette équipe-là. Voilà, ça remet en perspective ce qui attend Servette. Pour Servette, le vrai défi maintenant, c'est d'arriver à allier l'Europe et le championnat en faisant des résultats en championnat, en n'oubliant pas que le championnat lui permet d'atteindre l'Europe, parce que pour l'instant, il l'a un petit peu oublié, ça a été un peu embrumé derrière l'exploit de Genk. Mais maintenant, on arrive dans les choses sérieuses pour Servette. Et dans ces choses sérieuses, la priorité, ça doit être le championnat, même si la Coupe d'Europe n'est pas à négliger.
On souscrit
Valentin.
totalement à ce que dit Daniel. Moi, je voulais juste ajouter par rapport au Slavia. Bernard Chaland les connaissait par cœur quand il était entraîneur et de l'Arménie et du Kosovo. Et il me disait toujours, quand il venait chez nous, ce Slavia, c'est le berceau, enfin, comment on appelle, ouais, le berceau de l'équipe nationale. C'est là qu'il y a actuellement toutes les pépites qui transitent et ça devient bah, le Young Boys de la République tchèque. Et attention, effectivement, à la puissance de ces joueurs qui, chez nous, sont parfois méconnus.
Valentin, Servette a lancé sa saison maintenant, c'est bon, ils ont le temps de bosser, ils ont récupéré les blessés. Est-ce que tu as envie, est-ce que Servette a besoin qu'on voit de vraies Servette quoi maintenant?
Oui, bah, en fait, il y a pas mal d'interrogations qui vont quand même planer avant ce match-là. La première, c'est est-ce que vaut vraiment, avant ce match-là et avant tout l'automne, hein, bien sûr, qu'est-ce que vaut ce Servette avec le retour des blessures? Stevanovic a joué samedi contre Bulle, Antunes était là aussi, Frick était de retour dans les buts. Frick, justement, est-ce que ce sera Frick dans les buts ou est-ce que ce sera mal? Comment est-ce que Weiler va gérer les prochains matchs? Est-ce qu'il va plus faire tourner maintenant qu'il aura. Il y a juste Tsunemoto qui n'est pas encore revenu, tous les autres sont revenus. Il y a quand même beaucoup de questions qui entourent un petit peu ce retour de Servette après la trêve internationale, ce retour des blessures. En termes de jeu, est-ce que enfin ça va prendre? Est-ce que veut mettre en place Weiler va prendre? Est-ce qu'il va trouver cette formule qui, enfin, disons des joueurs qui appliquent exactement ce que lui a envie? De mon côté, il y a quand même pas mal d'excitation de savoir qu'est-ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est surtout des interrogations plus que des certitudes qui peuvent se construire.
Mais Robin, la réponse, elle est dans ta question. C'est quoi le vrai Servette? On connaît les intentions de René Weiler. Daniel, tu les suis peut-être encore plus près que moi, mais OK, on a senti qu'on voulait jouer plus vertical. Mais comme tu dis, il y a eu beaucoup de brume autour des premières sorties de Servette avec ses exploits sur la scène européenne. Est-ce qu'un Stevanovic peut s'inscrire dans un schéma de jeu comme René Weiler le prône? Enfin, voilà, nous, on est au même titre qu'Ibé. Dans l'attente de retrouver Servette après cette pause avec un effectif voilà, retrouvé au complet, mais on est plein d'incertitudes. C'est quoi le vrai Servette?
Ben oui, c'est la bonne question, mais il y a beaucoup de fulgurances parfois qui existent, mais avec beaucoup de parcimonie dans ce Servette-là. On voit ce que Servette pourrait être le Servette de Weiler, mais on ne le voit pas s'établir sur la durée par rapport à ça. On voit tous les problèmes que ça pose au milieu de terrain avec ce 4-4-2 voulu par Weiler, avec Servette qui se fait souvent manger à cet endroit-là. Et oui, on est impatient de voir ce qui va se passer maintenant qu'il a à peu près tout le monde à disposition. Tsunemoto reprend l'entraînement avec l'équipe depuis le début de cette semaine. Donc, il a vraiment tout le monde à disposition maintenant, pratiquement, à part Kormanian qui est blessé, sauf erreur. Et on va voir, c'est une question de choix, une question d'orientation et une question de priorité aussi. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que Servette ait eu bien des difficultés en championnat depuis le début de la saison avec une seule victoire à Guéze. D'accord. Il y avait la Coupe d'Europe et l'exploit était là derrière pour le vérifier et pour donner un peu de baume à ce Servette-là. Maintenant, c'est l'automne, Servette est 8e au classement, 6 matchs, 6 points, ce n'est pas suffisant. Tout simplement pas suffisant. Et René Weiler est devant les responsabilités qu'il doit prendre maintenant avec son nouveau schéma de jeu. Ben, il doit lui donner corps, il doit lui donner vie. Et toutes les excuses, Europe, blessures et tout ça, elles n'existent plus maintenant. Maintenant, on veut un Servette qui soit efficient et efficace sur le terrain.
Alain, il y a eu le bel emballement après la victoire contre Genk qui est une super ambiance contre les Rangers. Mais est-ce que tu sens à l'entrée de cette phase de poule un petit frémissement à Genève ou est-ce calviniste comme le Bernois est tranquille et on a l'impression que c'est un match comme les autres, quoi? Est-ce qu'il se passe quelque
Moi,
chose?
j'observe ce qui se passe sur la cité de Calvin de très, très, très loin géographiquement. Mais pour l'avoir vécu avec le hockey sur glace, et ça m'a été quand même confirmé parce qu'on a énormément d'amis et copains sur Genève. Et le Genevois, il aime l'événement. Ça se répète depuis des mois et des mois maintenant au travers du hockey, mais on l'a vu aussi, c'est se mobiliser quand il y a un grand événement. Donc, je pense qu'il y a une excitation. Après, si c'est pour venir comme au Hallenstadion et pas encourager son équipe, ben voilà, il n'y aura peut-être pas l'effervescence. Mais après, c'est aussi à toi sur le terrain d'aller les chercher, ces gens-là, parce qu'ils ne viennent pas juste pour boire des bières ou du champagne et manger des petits fours. Si tu vas les chercher avec tes tripes, avec les émotions, tu peux vraiment vivre de belles soirées. Moi, j'attends ça. Réjouis d'être jeudi soir à Genève et de voir cette équipe aller chercher son public et nous faire vivre des grandes et belles soirées européennes comme les plus anciens avons vécu avec.
Il y a quelque chose qui se passe à Genève, vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, de prendre forme. Alors, bien évidemment, l'Europe n'y est pas pour rien. Le stade plein contre les Rangers raconte ce processus-là. Être deuxième du championnat la saison dernière, eh ben, ça a aussi provoqué quelque chose. Et puis, quand on regarde les réservations qui sont faites pour les matchs de Coupe d'Europe contre la Roma et Sheriff et puis le Slavia, bien sûr, jeudi, on voit que ça draine quelque chose. Et au-delà de ça, il y a maintenant tout un mouvement qui existe depuis plusieurs saisons, mais qui s'intensifie d'identification et de sympathie autour du club. Moi, j'ai une jeune fille qui me dit « Papa, c'est plus ringard, Servette. Maintenant, ça devient stylé de porter un maillot de Servette dans les rues. » C'est quelque chose qu'on avait oublié, en tout cas les anciens comme moi à l'époque, avec les différentes faillites ou tous les problèmes. Personne n'osait jamais porter, aucun jeune, j'en croisais aucun dans les rues qui portait un maillot de Servette. Maintenant, ça devient quelque chose de stylé, comme dit ma fille. Et ça, c'est un mouvement qui naît actuellement et qu'il faut entretenir. C'est la responsabilité du club, ça.
Valentin, tes potes, ils ont sorti le maillot rose pour aller bosser?
Non, mais il y a beaucoup de monde là. Enfin, il y a un nombre de maillots. Tu vois, les entraînements des gamins partout dans le canton, il y a des maillots de Servette. Dans les rues, tu vois des maillots de Servette. En soirée, tu peux voir des maillots de Servette. Enfin, il y a quand même un truc. Hein. C'est ce que dit Daniel est juste. Et je ne crois pas que le public à Genève. Alors, le public à Genève est événementiel, mais le public aime bien s'enflammer aussi. Donc, il est capable de porter son équipe. Et je crois que ce qu'on a vu contre les Rangers, quand il y a eu le stade plein, en termes d'ambiance, c'est quelque chose qui était inédit du côté de Genève, et c'est la preuve qu'il y a un truc qui peut se passer et qui doit se perpétuer. En tout cas, c'est pas facile, mais ça doit être fait. Et ça, c'est comme l'a dit Daniel, c'est un travail qui incombe au club, qui incombe à l'équipe et aux joueurs. Quoi. Donc non, il y a pas de raison que ça se passe mal. Maintenant, j'espère que je suis pas sûr que contre le Slavia le stade soit rempli. Contre la Rome, il le sera certainement, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont acheté des billets, qui
pack de 3,
qui ont acheté le pack de 3 pour voir la Rome. Mais par contre, le match contre le Slavia, les billets, ils se revendent un petit peu plus, quoi. Donc voilà, faudra voir ce que ça donne joli. Mais c'est quand même la Coupe d'Europe à Genève, et ce sera quand même pas négligeable, en tout cas.
Alain, ce sera le mot de la fin. Hein. Je voudrais vous avoir les trois sur le sujet. On parle de l'ambiance et ce qui monte à Genève, mais pendant ce temps-là, Lugano, Conference League ou Leipzig Rode contre Bodo Glimt, contre Club Brugge, contre Besiktas. Alors, les affiches ne sont pas dégueu, mais il y a cet éternel problème de Lugano qui a dû faire son match de qualif contre l'Union Saint-Gilloise à Genève. C'est dur pour Lugano, Alain. Pas d'ambiance.
Oui, c'est dur, ça coûte de l'argent et mérite quand même à ce club qu'on a tendance à sous-estimer de ce côté-ci du Gothard qui grandit, qui à mon avis va prendre une place vraiment importante dans le football suisse une fois qu'ils auront leur nouvelle enceinte. Mais oui, tu vas au Leipzig Rode, donc déjà, faut se motiver pour y aller un jeudi soir. Des fois, c'est 6 heures, donc c'est compliqué pour même les plus fervents supporters tessinois. Après, ils ont une petite chance qu'effectivement il y a des groupes beaucoup plus dégueux, comme tu le dis, en Conference League. Mais moi, je dis mérite à Lugano, c'est pour ça que nous on va quand même les suivre. Alors on n'ira pas avec eux à l'étranger, parce que voilà, c'est pas, on est logistiquement c'est compliqué, mais on va les suivre parce qu'ils méritent aussi au titre qu'on va suivre Servette et IB, comme tous les clubs suisses qu'on s'y intéresse. Mais mérite à eux, quoi. Oui. Mais ça va être compliqué.
Daniel, comment tu sens ce Lugano qu'on voit quand même de très loin d'ici?
Pour plusieurs raisons compliquées. Évidemment, les raisons infrastructurelle, ne pas jouer à domicile. Et puis après, ben, le groupe, quoi, bon sang, ils n'ont pas eu de bol quand même. Hein. Beşiktaş et Bruges, on peut difficilement se dire que c'est jouable pour eux. Quoi. Et puis Bodø/Glimt, ok, les Norvégiens, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même une équipe qui fait les barrages de C1 en passant les trois tours l'année dernière, qui était en groupe de l'Europa League dans le groupe de Zurich, sauf erreur.
On a mis 6 à Mourinho il y a 2 ans.
Mais c'est pas rien, parce que s'il termine 4e de ce groupe, ben, il ne faudra pas s'étonner, hein, Lugano. Donc, compliqué pour toutes ces raisons-là, oui.
Valentin, quand même, Lugano, par contre, est un club intéressant, même si on sait que ce n'est pas forcément eux qui génèrent les revenus hein, de tout, mais tactiquement, au niveau joueur, il y a quelque chose.
Ouais, c'est un football qui est souvent assez plaisant. Alors, c'est peut-être un petit peu plus usant et plus compliqué à le montrer maintenant que tu joues tous les 3 jours, mais globalement, Kroos Lüttertit est un entraîneur qui mérite d'être suivi. Maintenant, Lugano a un gros problème, c'est qu'ils ont perdu Valenzuela, leur latéral gauche, sur blessure pour les 6 prochains mois. Et ça change quand même beaucoup de choses parce que c'était pas que le latéral gauche, c'était le latéral gauche qui venait à l'intérieur, qui donnait du, qui orientait le jeu, c'est un super joueur Valenzuela. Et ça c'est une sacrée perte et ils savent pas trop comment le remplacer pour l'instant.
C'était le cliché de Lugano quoi.
C'est un peu ça. Ouais. Donc ils savent pas comment le remplacer. Moi j'ai vu un petit peu les gens de Lugano l'autre jour parce que j'étais au match contre Nancy à Nancy qu'ils ont gagné 3-0. Ça demande un petit peu de réflexion et de savoir comment les remplacer. Donc tu peux pas te permettre d'avoir trop de blessures importantes. Non plus. Et après, évidemment que jouer à Zurich, ça les arrange pas, mais a priori, ils ne devraient pas perdre d'argent. Ils auront 2-3 000 personnes au match en moyenne, quoi, peut-être un petit peu plus quand on sera à Beşiktaş, mais c'est le dernier match de poule. Mais par contre, ils ne vont pas perdre d'argent parce que les revenus liés aux compétitions européennes devraient leur permettre de couvrir tous les frais qui sont engendrés par la perte de gains qui est engendrée par le fait d'aller jouer à Zurich.